Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Donc, comme je l'avais annoncé, je vais consacrer ce dernier cours de l'année, qui sera un peu plus long que d'habitude. Autant vous prévenir à l'avance que je vais dépasser le temps plus que d'habitude, en fait. Je vais donc le consacrer d'abord à ce que j'ai appelé, faute de meilleure formule, les signes extérieurs de la modernisation dans la région du Guangzhou, au milieu des années 1930, et ensuite à ce que j'ai appelé, de façon peut-être un peu provocante, la mutation de l'agriculture irriguée dans le Weibei au même moment. La seconde, donc la mutation, devant bien sûr être envisagée dans le contexte de ces signes extérieurs de la modernisation. Qu'entends-je exactement par cette expression? J'entends par là, comme je l'avais déjà suggéré, un certain nombre de changements immédiatement visibles en termes d'environnement, d'équipement et d'infrastructures, des changements que l'on peut observer pendant la décennie 1930. Ces changements dont je vais parler viennent en contraste avec des évolutions beaucoup plus lentes ou beaucoup moins visibles, ou alors avec la quasi-absence d'évolution, dans de larges secteurs de la société et de l'économie de la région. Certaines innovations sont importantes et ont eu un impact absolument décisif, comme avant tout l'arrivée du chemin de fer dans le Guangzhou. Dans d'autres cas, en revanche, c'est moins net. Ce sont plutôt des impressions, des détails ou des faits isolés que j'ai relevés ici et là. Des impressions qui exigeraient en réalité des enquêtes beaucoup plus minutieuses que ce qu'il m'a été possible de faire pour être confirmées et surtout pour être mises en perspective. Un bon exemple, c'est ce qui a changé dans la ville de Xi'an, la capitale de la province, où l'on aurait tendance à penser que se concentrent naturellement les signes de la modernisation. Or, si nous savons que beaucoup de choses ont changé, il n'est rien de plus difficile que de se figurer concrètement à quoi pouvait ressembler la ville à une date quelconque au cours de cette période, ou de toute autre période, à vrai dire, avant l'époque vraiment contemporaine. Combien d'habitants elle comptait dans et hors les murs, quelle était la nature et la qualité du bâti et de la voirie dans les différents quartiers, ce qui en était des divers types d'équipements inséparables de l'existence d'une grande ville, établissements d'enseignement, hôpitaux, culture, moyens de transport, etc. Et ainsi de suite. C'est qu'une véritable histoire de la ville de Xi'an pendant ces années reste à faire. Et je suis certain qu'en assemblant patiemment les données dispersées ça et là, on arriverait à une vue beaucoup plus concrète et beaucoup plus complète, surtout, que ce que je puis offrir pour le moment. Par exemple, j'ai relevé dans les tables des matières des collections des Wenshiziliao, publiées à Xi'an et autour de Xi'an, un nombre relativement important d'articles, c'est-à-dire de témoignages portant sur tel ou tel type d'activité dans la ville, telle ou telle industrie, tel ou tel quartier de la ville et comment il s'est transformé, voire telle ou telle rue. Et tout cela mériterait d'être vu d'un peu plus près, mais j'avoue que je ne suis pas pour le moment en mesure d'en offrir une synthèse. Et je me limiterai donc aujourd'hui à quelques témoignages sur Xi'an, d'un genre assez différent de ce que je viens de mentionner juste à l'instant. En effet, ces témoignages ne sont pas des témoignages d'habitants, des vrais témoignages, comme ceux qu'on trouve dans les Wenshiziliao, ce sont des témoignages extérieurs. Et en un sens, ils sont un peu superficiels dans la mesure où ils s'appuient sur de simples impressions. Pourquoi ? Parce qu'ils proviennent de visiteurs étrangers, des visiteurs qui sont simplement de passage, et dont j'ai déjà cité d'ailleurs les principaux la semaine dernière, lorsque j'ai évoqué très rapidement les entrevues des personnages en question avec le gouverneur Shao Lizi. Voici donc quelques-unes de leurs impressions par ordre chronologique. Le premier à traverser Xi'an en mai 1932, semble-t-il, est Hewlett Johnson, cet ecclésiastique anglais, ami de l'ingénieur Todd, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Johnson est peut-être le plus superficiel parmi nos témoins, ou faudrait-il dire le plus touristique. Et à vrai dire, il ne dit pas grand-chose de Xi'an, mais ça lui a bien plu. Il parle d'une ville charmante, Lovely City, une ville qui se dresse noblement au milieu de ses murailles majestueuses, une ville où l'histoire est partout présente et pleine de trésors culturels. Et il est allé voir, en effet, les fameuses stèles et les non moins fameux chevaux en bas-relief des Tang qui sont maintenant dans le musée de Xi'an. Les rues, affirme-t-il, sont propres, en bon ordre, et elles sont profondément chinoises, par quoi il veut sans doute dire typiquement chinoise, autrement dit de style traditionnel, par opposition à l'aspect occidentalisé des concessions étrangères dans les grandes villes de la côte. Et le seul signe de modernité qu'il mentionne, c'est qu'il y a quelques automobiles, toutes américaines, regrette-t-il, puisqu'il est anglais. Il y en a aussi dans les autres villes de la région, dit-il, par lesquelles il est passé, et il note que si les routes qui relient ces villes entre elles sont encore assez difficiles, et l'aménagement de la route Xi'an, nous l'avions vu, vient seulement d'être entrepris, en revanche, on circule, d'après lui, assez facilement en automobile dans les environs immédiats. Et c'est d'ailleurs ce qui est confirmé par un article de Todd, paru un an plus tôt sur les routes de Shaanxi, du Shaanxi, dont je redirai un mot, et qui est quand même plus précis. Bref, rien de tout ce que je viens de dire ne nous mène très loin. En tout cas, si l'impression qu'a eue de Xi'an le voyageur Johnson est une impression de propreté et d'ordre, c'est qu'il a vu la ville partant sec. En revanche, lorsque Jaroslav Prušek, le sinologue tchèque que j'ai présenté la semaine dernière, visite Xi'an 2 ans plus tard, en mars 1934, c'est le contraire. Bien que ce ne soit pas normalement la saison, il pleut. Et si Prušek a passé une semaine entière dans la ville, ce qu'il n'avait pas du tout prévu au départ, c'est qu'il continuait de pleuvoir et qu'il était hors de question de s'aventurer sur les routes. C'était même interdit. Prušek a beaucoup d'observations intéressantes sur Xi'an, à commencer par le fait qu'à l'époque où il la visite, c'est une ville en partie vide. D'abord, elle n'a pas de faubourg. Hors les murs, il n'y a que des champs. Et c'est ce que vous voyez sur cette vue qui doit être à peu près contemporaine. Et lorsque on franchit l'une des portes massives qui s'ouvrent dans la muraille, aux quatre orientations, ce que Prušek et ses compagnons ont réussi à faire en pleine nuit, en menaçant d'aller faire le lendemain un scandale chez le gouverneur, alors qu'en principe tout est hermétiquement bouclé pendant la nuit. Donc, lorsqu'il franchit la muraille, lorsqu'on franchit cette porte, on se retrouve de nouveau dans un vaste no man's land, mais cette fois-ci entouré d'une muraille. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce plan de Xi'an, qui est tout à fait contemporain de ce dont je suis en train de parler. Où vous pouvez voir en effet que la surface bâtie à l'intérieur des murs est faible et le bastion par lequel on doit entrer, qui est entouré de murs, donc à l'est, attendez que j'arrive à voir ma flèche, non, voilà, qu'on voit ici, et dans la description de Prušek, en tout cas complètement vide d'habitation. Et même à l'intérieur de la muraille principale, il reste, dit-il, de vastes zones non construites. Et Prušek attribue cette situation à un siècle de famine et de guerre. Il aurait pu ajouter, bien sûr, le siège de la ville en 1926, qui est réputé avoir fait quelque 40 000 victimes à l'intérieur des murs, et plus récemment encore, la grande sécheresse de 1929 et 1930. Lorsqu'il affirme qu'autrefois la ville avait 1 million d'habitants et qu'elle n'en a plus aujourd'hui que 250 000, il télescope un peu les périodes historiques. En effet, Chang'an, la capitale des Tang, a peut-être en effet eu une population tournant autour du million d'habitants, mais c'était 13 siècles plus tôt, et surtout la surface à l'intérieur des murs était infiniment plus vaste qu'à l'intérieur de la muraille des Ming et des Qing, c'est-à-dire la muraille actuelle qu'on voit sur ce plan, laquelle n'est qu'une petite partie de l'ancienne. Par comparaison, la ville telle que vous la voyez ici, la muraille fait 4 km en largeur et presque 3 en hauteur, enfin nord-sud, alors que Chang'an des Tang faisait 11 km sur 9. Donc, cette différence entre la ville des Tang et la ville actuelle, Prušek ne semble pas la réaliser, ou en tout cas, il n'en parle pas. Cela étant, il est clair que le sentiment d'un espace urbain en grande partie délaissé correspond à une réalité. D'ailleurs, d'après plusieurs auteurs, la population de Xi'an au début des années 30 était plus proche de 100 000 que de 250 000, c'est-à-dire qu'elle était plus ou moins à son niveau de la fin des Qing. En fait, l'impression qui ressort des observations de Plouchek est celle d'une ville plutôt bien administrée, avec un long cycle, après un long cycle de désordre, mais qui reste condamnée à la stagnation économique par l'isolement auquel elle est condamnée, par l'absence de communication moderne. Lorsque les deux voyageurs visitent la ville le lendemain de leur arrivée, ce qui les frappe, c'est le contraste entre les quelques éléments de modernité qui s'affirment ça et là, et la pauvreté générale. Je cite, les principales avenues sont larges, elles sont pavées de briques, semble-t-il, et même bordées d'alignements d'arbres, ce qui suggère une administration vigoureuse et dynamique, soucieuse du progrès de la région. Donc l'administration de Shaolitze. Vous avez ici deux vues de la grande rue ouest, Sidatier. L'une avant sa réfection, et la suivante après sa réfection. Cette photo est probablement postérieure à la visite de Plouchek, même certainement, mais pas de beaucoup. Toutes ces photos de Xi'an sont tirées d'un ouvrage publié en Chine dont les légendes de photos sont totalement insuffisantes et parfois totalement fausses. Mais malgré tout, ces images valent la peine d'être vues. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, d'images de Xi'an. Donc voici pour les avenues bordées d'arbres et larges et bien entretenues, mais en revanche, les rues adjacentes ne sont que des rigoles de boue totalement impraticables par temps de pluie. Et Plouchek ajoute, je cite encore, « La place qui se trouve au centre de la ville s'enorgueillit de plusieurs immeubles de bureaux modernes de style européen, abritant les filiales de compagnies shanghaïennes. Et il y a même plusieurs librairies bien fournies. Vraisemblablement, les citoyens locaux compensent leur isolement du monde extérieur en lisant beaucoup. » Mais en dehors de cela, les maisons et les boutiques trahissent le déclin de la ville et la pauvreté générale de ses habitants. Elles sont presque toutes vides. Fin de citation. Et il n'y a pas de centrale électrique à Xi'an. En revanche, les quelques écoles que visitent Plouchek et son compagnon, grâce à la voiture mise à leur disposition par le gouverneur Shaolitze, leur font la meilleure impression. Les élèves sont éveillés, les méthodes se sont modernisées et le cadre est agréable. Ils vont aussi voir des pièces de théâtre locales, dans le théâtre moderne à l'occidental, dont la ville peut se prévaloir depuis, je crois, les années 20, et qui n'est autre, et ça, Plouchek ne le précise pas, qui n'est autre que le siège de l'association d'amélioration des coutumes, c'est-à-dire Yisouche, qui avait été fondée au tout début de la République par le père de Li Yijie. Et j'en avais dit, je crois, un mot il y a quelques années, enfin, il y a 2 ou 3 ans. Un théâtre dont une compagnie théâtrale ou une association d'amélioration des coutumes dont la spécialité était en effet le théâtre local du Shanxi, c'est-à-dire le Xinjiang, adapté à des sujets édifiants ou modernes. Et c'est d'ailleurs un lieu, ce théâtre, que voici, c'est un peu flou mais ça donne quand même une idée, c'est également un lieu où sont fréquemment mentionnées des réunions publiques ou des meetings ou des séances comme de ce genre. L'industrie locale, d'après Plouchek, se limite à quelques fabriques d'allumettes et à des ateliers de teinturerie produisant des cotonnades bleues décorées de motifs blancs qui sont typiques de la région et qui sont, d'après sa description, produites avec des techniques extrêmement primitives. Il ajoute qu'il est impossible de se procurer un certain nombre de produits de base, du café par exemple, qui sont devenus d'usage tout à fait courant dans les villes chinoises, si l'on peut dire normales. Et tout cela, en fin de compte, conclut-il, c'est parce que la voie ferrée s'arrête à plus d'une centaine de kilomètres de là et que le coût des transports est prohibitif. Et puis, on a l'impression que la ville est à la merci de la pluie, qui la transforme en un océan de boue dès qu'on sort des avenues pavées. Plouchek et son compagnon, comme je l'ai dit, ont eu la malchance de voyager à Xi'an partant de pluie. Même si ce sont des averses intermittentes, leur effet est suffisant pour que le gouverneur interdise aux charrettes de quitter la ville, sans parler bien sûr des autobus. Et suivant dans les termes de Plouchek, la ville reste enfermée comme une forteresse encerclée par des armées ennemies. Xi'an, vue par Plouchek, semble n'attendre que l'arrivée du chemin de fer pour être prête à se développer. Et c'est en effet ce qui commence à se produire lorsque Peter Fleming, ce journaliste britannique que j'avais mentionné la semaine dernière, passe très brièvement dans la ville en février 1935. Voici en effet ce qu'il en dit, je cite. « Xi'an, nous nous avons été reçus avec la plus grande hospitalité à l'hôpital de la mission Baptiste, est une ville vaste, plate, pas très belle, dont l'importance comme centre de distribution s'accroît rapidement à présent qu'elle est connectée à la côte par le rail et par voie aérienne. Nous l'avons trouvée pleine de soldats, raisonnablement bien équipés et disciplinés, dont la présence, comme dans tout le Nord-Ouest, montre que les campagnes anticommunistes de Chiang Kai-shek ont considérablement accéléré l'extension de l'influence de Nankin dans les provinces les plus reculées. J'attribuais à la visite récente du généralissime et de Madame Tiang, les apôtres du mouvement de la vie nouvelle, le fait qu'en un seul jour, j'ai été réprimandé deux fois par la police parce que je fumais ma pipe dans la rue. Et ce dernier détail, c'est la modernisation par le petit bout de la lorgnette, si vous voulez. Mais ce n'est malgré tout pas sans intérêt. Ce mouvement de la nouvelle vie, c'est-à-dire Xin Shen Ho Yun Dong, avait été fondé par Chiang Kai-shek et sa célèbre épouse juste un an avant, en février 1934. Et dès le mois de mars, d'ailleurs, Pouchek nous parle de cette année, 34, nous parle des affiches qui fleurissent sur les murs de Xi'an et qui, pleines de slogans célébrant le mouvement de la nouvelle vie. Comme on le sait, le but de ce mouvement était d'encourager un retour aux normes confucéennes de comportement individuel et, suivant la formule chinoise, de culture de soi, mais quelque peu adapté à la vie quotidienne moderne. En un mot, il fallait obliger les citoyens à être polis, attentifs aux autres, à ne pas fumer, à ne pas cracher, à maintenir la propreté sur leur personne et dans leur environnement, et ainsi de suite. Et on pense d'ailleurs aux campagnes similaires menées périodiquement en Chine populaire, pendant lesquelles on encourage les citoyens, il y a des affiches partout, des inscriptions, et personne n'y fait attention d'ailleurs, à se comporter de manière civilisée, c'est-à-dire de manière Wenming, et non pas comme des paysans mal dégrossis. Et l'objectif ultime du mouvement de la nouvelle vie, en effet très confucéen, c'était de réformer moralement les Chinois, dont certains idéologues du Kuomintang déploraient à cette époque le cynisme, la mollesse, l'opportunisme, etc., en commençant par leur apprendre à régler leurs manières. Mais malgré les affichages, jusque dans les villages les plus reculés, la campagne pour la nouvelle vie s'est essoufflée assez vite, et en fait elle n'a jamais touché qu'une toute petite frange de la population, disons parmi la nouvelle bourgeoisie modernisée dans les grandes villes. Mais elle aura eu au moins pour effet d'apprendre aux gens à se conduire et à garder les rues propres dans justement quelques grandes villes. En fait, j'aurais tendance à penser que le mouvement de la nouvelle vie, en même temps que la discipline militaire qu'essayait d'imposer le parti nationaliste dans les rues, comme le note Fleming et comme le note pas mal d'autres auteurs, sont à leur manière un aspect secondaire sans doute, mais malgré tout, un aspect de la modernisation de la Chine pendant la décennie de Nankin. Plus intéressante, bien sûr, est la mention du coup de fouet qu'a reçu le commerce de Xi'an avec l'arrivée du chemin de fer. Je ne sais pas si Fleming, si journaliste qu'il soit, a bien pu saisir tout cela en ne passant qu'un seul jour à Xi'an, mais il est tout à fait possible que le gouverneur Shao Lizhi lui ait fait un exposé de la situation au cours de l'entrevue dont j'ai parlé la dernière fois. En tout cas, Xi'an avait été de tout temps un nœud de communication et un centre de redistribution. Après tout, pendant de longs siècles, ça avait été le point de départ ou le point d'arrivée, suivant le sens dans lequel vous regardez, de la route de la soie. Mais c'était alors dans le contexte d'un système traditionnel d'échange, où les tonnages transportés étaient faibles, où les produits négociés étaient des produits rares et donc chers, et où le temps ne comptait pas. Et où, en outre, le Guangzhou était un centre et non pas une périphérie, où le pouvoir impérial était proche, il était même là, à Xi'an, et où l'ordre régnait. Dans le cas présent, le chemin de fer va aider à réintégrer la ville à des réseaux qui fonctionnent et qui se développent loin d'elle, par rapport auxquels elle reste marginale. On pourrait dire qu'à terme, le chemin de fer va contribuer à restaurer l'économie d'un hinterland en crise. Mais la ville elle-même reste le plus gros marché de biens de consommation de la province. En 1934, Pouchek se plaint de ce qu'il est impossible de se procurer à Xi'an les articles de consommation courante qu'on trouve partout dans les autres villes chinoises. En 1935, la situation semble débloquée de ce point de vue, bien que le témoignage que je viens de citer ne donne pas beaucoup de détails. Et deux ans et demi plus tard, en septembre et octobre 1937, c'est un tout à fait autre genre de témoin qui nous parle de commerce à Xi'an. Je veux parler de Agnès Medley. une journaliste américaine très connue à l'époque, qui était une admiratrice fervente des communistes chinois et de l'armée rouge. En 1937, c'est-à-dire après le fameux coup de décembre 1936, au cours duquel Yang Hucheng et Zhang Xueliang, les deux généraux supposés combattre les communistes basés à Yan'an, donc 300 km au nord de Xi'an, ont kidnappé Chiang Kai-shek venu en tournée d'inspection et l'ont obligé à s'allier avec les communistes pour combattre le Japon. En 1937, donc, Agnès Medley, qui s'était installée à Yan'an pour faire un reportage sur les chefs communistes, va séjourner quelque temps à Xi'an pour des soins médicaux. Et elle va, elle aussi, à l'hôpital des missionnaires baptistes, qui est équipé pour la radiologie, etc., car, malgré son amour pour les communistes, elle tient quand même à être bien soignée. Elle évoque ce déplacement qui oblige à emprunter des pistes impossibles, et elle évoque surtout la ville de Xi'an au début d'un ouvrage intitulé « China Fights Back », la Chine contre-attaque, qui a été publié en 1938, un ouvrage dont le sujet proprement dit, en fait, est la campagne de la célèbre 8e armée de route communiste contre les Japonais dans le nord du Shaanxi, donc la province voisine. Campagne qu'elle est allée suivre comme reporter après son séjour à Xi'an. Et à Xi'an, donc, les boutiques, d'après elle, regorgent de marchandises, de pacotis, qui coûtent très cher, mais elle n'est guère impressionnée par ces boutiques de 2 ou 3 étages, comme elle les décrit, où s'entasse donc toute cette camelote importée de l'intérieur, de l'intérieur de la Chine, et elle n'est pas non plus impressionnée par Xi'an en général, qui pour elle n'est pas vraiment une ville, not much of a city, elle dit. Il est vrai que tout ce qui est en dehors des zones communistes semble mériter au mieux son dédain. Mais elle mentionne quand même le meilleur hôtel de Xi'an, aussi impeccablement équipé et confortable que les grands hôtels de Shanghai. Et bien qu'elle ne donne pas le nom, il s'agit certainement de l'hôtel de la capitale de l'Ouest, donc le Xijing Chaodaisuo, qui avait été construit en 1935 par une des meilleures firmes de travaux publics du pays, la Shanghai Tianyi Gongsi, donc l'entreprise de construction de Shanghai, à qui l'on doit également à la même époque les succursales à Xi'an de deux des principales banques chinoises de l'époque, donc la Banque des Communications et la Banque de Chine, ainsi que l'Institut d'agronomie de Wugong, dont je parlerai tout à l'heure. Cet hôtel, d'ailleurs, au dernier nom, dernier cri, Agnès Medley le connaissait bien, puisque, par le plus grand des hasards, d'ailleurs, elle y résidait quelques mois avant, au moment du coup de Xi'an, moins d'un an plus tôt, donc, et qu'elle avait été, de ce fait, aux premières loges, puisque c'était dans cet hôtel que descendaient les fonctionnaires et les militaires et les officiers du Kuomintang, quand ils étaient de passage à Xi'an, et c'est dans cet hôtel qu'ils ont été assignés à résidence pendant la durée de l'incident. Et à la même époque, ou très peu de temps après, il y avait également quelques grands magasins à Xi'an, comme celui-ci qu'on voit sur la droite, donc le Xijing Zhongguo Guoro Gongsi. Là non plus, je connais pas la date exacte de la photo, mais il est probable qu'il existait au moment où Smedley est passé, en 1937. Donc, ce grand magasin qu'on voit, enfin qu'on devine, un bâtiment moderne de plusieurs étages, qui fait face justement à ces boutiques de 2 ou 3 étages dont parle Agnès Medley. De même, en ce début d'année 1937, on peut être sûr que la circulation automobile était beaucoup plus intense que du temps de Johnson ou de Plouchek. Il y avait désormais l'électricité dans la ville. Il semble qu'une centrale ait été construite en 1935, toujours. Les lignes que l'on aperçoit sur toutes les photos des rues de Xi'an, comme ici sur la droite, montrent que le téléphone commençait à se répandre sérieusement. Le télégraphe existait depuis la fin du 19e siècle. Il y avait un aérodrome. Et dès 1933, Todd fait allusion à la poste aérienne entre Pékin et Xi'an, et ainsi de suite. En revanche, il n'y avait pas l'eau courante, même si on trouve en 1935 dans la revue d'hydraulique du Shaanxi, Shaanxi Shueli Yuekan, donc une revue mensuelle, qui avait été fondée par Li Yizhe à la fin de 1932, dont je redirai un mot rapidement, même si on y trouve 2 articles proposant un plan détaillé et très technique d'adduction d'eau pour la ville. Mais apparemment, sans qu'il y ait eu de... sans que ce plan ait été mis en œuvre, en tout cas dans l'avenir proche. Tout cela, tout ce que je viens de raconter en conclusion, reste très impressionniste et ne remplace en aucune manière l'étude d'histoire urbaine qui nous manque sur Xi'an et qui serait un beau sujet de thèse, soit dit en passant. Mais j'ai voulu vous livrer ces quelques éléments relevés un peu au hasard de mes lectures parce que, si éparpillés soient-ils, ils suggèrent malgré tout quelque chose du changement par lequel est passée la capitale du Shaanxi pendant la première moitié, pendant les années 1930, changement dans son environnement physique et dans son environnement humain. À ce propos, Smedley parle également, dit également au passage, c'est une ville d'un quart de million d'habitants, 250 000. Ce chiffre semble un peu un chiffre que tout le monde répète, mais il est certain qu'en 1937, par rapport à 1934, la population avait augmenté du fait essentiellement du chemin de fer et donc toutes les industries qui s'étaient installées dans les murs, ou toutes tous les commerces qui s'étaient installés dans les murs depuis lors. Ce à quoi on assiste, en quelque sorte, avec ces quelques détails que j'ai alignés jusqu'à maintenant, c'est un démarrage de modernisation. Comme nous l'avons vu, et comme il est assez souvent répété dans ces témoignages, la question de la desserte de la ville, c'est-à-dire des transports et des communications, est absolument cruciale. Et bien sûr, elle n'intéresse pas que Xi'an. Vers 1930, ou jusqu'en 1930, l'absence du moindre kilomètre de voie ferrée et la quasi-absence de routes raisonnablement carrossables sont dénoncées par tout le monde comme une des causes fondamentales de l'isolement et donc de l'arriération du Shaanxi. Or, on peut dire qu'en l'espace de 5 ou 6 ans, Xi'an est passé d'un isolement quasi total en termes de communication moderne à une amorce de désenclavement. Et les conséquences économiques qui en sont résultées se sont fait sentir dans tout le Guangzhou. Il me semble donc utile de dire quelques mots, arrivés à ce point, quelques mots de plus sur cette modernisation des communications pendant les années 1930. En ce qui concerne d'abord le chemin de fer, j'ai déjà mentionné au passage, dans des cours précédents, les grandes dates. La transversale est-ouest du Long Rail, qui part de la côte, donc à l'est, et qui était destinée dès le départ à atteindre le Gansu, tout à fait à l'ouest, cette grande transversale a été prolongée jusqu'à Tongguan, c'est-à-dire la ville qui donne accès à la vallée de la Wei depuis la plaine centrale, entre novembre 1930 et décembre 1931, semble-t-il avec un financement assuré par des fonds de l'indemnité boxeur retournés par la Belgique. Donc ces indemnités qui avaient été exigées après les incidents de 1900 et que dans les années suivantes, la plupart des pays ont restitué à la Chine pour qu'elle serve à des projets de développement justement. Il manquait alors, entre le terminus provisoire du train et Tongguan, il manquait 73 km qui avaient été laissés en souffrance pendant les années 29, 28, 29 et 30 à cause de la guerre entre Feng Yuxiang et le régime de Nankin. On peut donc, à cette date, donc décembre 1931, on peut donc arriver au Shaanxi, où ils transportaient des marchandises en train, mais pas à plus de quelques kilomètres de la frontière. À partir de là, pour gagner Xi'an, il faut prendre la route dont je parlerai dans un instant. D'après la biographie que je mentionnais la dernière fois, dont on réalise assez vite que c'est plus une hagiographie qu'autre chose, et qu'elle est bourrée d'erreurs, c'est au gouverneur Shao Lizhi que reviendrait le mérite d'avoir obtenu de Nankin les fonds nécessaires pour construire un tronçon de 130 km, donc reliant Tongguan à Xi'an, lequel tronçon était programmé depuis longtemps, en fait depuis la fin des Qing. Et Shao Lizhi, donc, d'une part, et d'autre part, Yan Hucheng, qui restait commandant en chef des armées de la province et qui aurait rendu le projet réalisable en y faisant travailler les soldats de sa 17e armée. En réalité, des sources plus sûres et plus sérieuses montrent que les travaux préparatoires étaient déjà en train en 1931, que les travaux proprement dits ont débuté toujours sur ce tronçon entre Tongguan et Xi'an, ont débuté en août 1932, près d'un an donc avant l'entrée en fonction de Shao Lizhi, mais que ces travaux n'ont pris vraiment leur rythme définitif qu'un an plus tard. Et surtout, on peut voir que si les responsables politiques locaux, donc Shao Lizhi et avant lui Yan Hucheng, étaient évidemment favorables au développement ferroviaire de la province et qu'ils faisaient du lobbying en ce sens auprès des autorités centrales, la réalisation finale de ces projets a en fin de compte dépendu de facteurs qui les dépassaient et qui dépassait le cadre de la province. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la prolongation du Longhai procédait d'une politique de développement du Nord-Ouest impulsée par le gouvernement central, avec plus ou moins d'efficacité selon les circonstances, mais avec un certain sentiment d'urgence postérieurement à l'incident du 18 septembre, c'est-à-dire du 18 septembre 1931, autrement dit l'invasion de la Mandchourie par les Japonais. Dès cette époque, la construction économique du Nord-Ouest, à commencer par le Shaanxi, est conçue comme un élément parmi d'autres au sein d'une stratégie d'ensemble visant à préparer le pays à résister à la machine de guerre japonaise. Et cette dernière n'a en effet cessé pendant les années précédentes, l'invasion proprement dite de 1937, n'a en effet cessé d'accentuer sa pression et de grignoter de nouvelles positions en Chine du Nord. En d'autres termes, le Shaanxi est destiné à devenir un élément clé d'un grand arrière dans l'ouest du pays, communiquant avec l'Asie centrale et avec l'URSS. En août 1932 est constituée une commission d'enquête sur l'activité économique au Shaanxi, Shaanxi Shiye Kaochatuan, qui est accueillie dans la province par Yang Hucheng et qui y passe une quarantaine de jours et qui préconise, entre autres mesures, l'accélération des travaux ferroviaires. Cette politique de développement du Nord-Ouest sera poursuivie pendant toute la durée des années 30 et jusqu'à la fin de la guerre, avec plus de moyens et avec une orientation plus marquée vers la défense nationale à partir de 1935. Mais comme on l'a vu, les débuts ne sont pas rapides, car au début de la décennie, le régime nationaliste connaît des difficultés financières sans fin et pour de multiples raisons, telles que les inondations catastrophiques du Yangtze en 1931, que j'ai souvent mentionnées, telles que les attaques japonaises la même année en Mandchourie et sur Shanghai, et encore d'autres causes de dépenses militaires majeures, les combats contre les communistes par exemple. Et ce n'est qu'à l'été 1933 que l'État nationaliste, soutenu par les principales banques du pays, qui sont étroitement associées au gouvernement du Kuomintang, réussit à contracter des emprunts importants à l'étranger. Et c'est donc à partir de là que le chantier de la voie ferrée Tongguan-Xi'an a pu être financé de façon adéquate et être mené à bien en un peu plus d'un an. Le Longhai atteint donc Xi'an en décembre 1934. Alors que, d'après les plans initiaux, ça aurait dû être 2 ans plus tôt. Et voici d'ailleurs la gare, qui n'est pas très impressionnante vue d'ici, mais c'est vraiment la seule vue que j'ai. Et c'est une photo qui est supposée, toujours d'après cet ouvrage, mais je me méfie, qui est supposée avoir été prise en décembre 1936, au moment de l'arrivée de Chiang Kai-shek, donc juste avant l'incident de Xi'an. Tout de suite après l'arrivée du Longhai à Xi'an, la voie est prolongée plus à l'ouest, dans la vallée de la Wei, jusqu'à Baoqi, pour une longueur de 173 km qui est atteinte à la fin de 1936. Vous voyez ici Xi'an ici, et donc le train arrive de Tongguan à Xi'an en fin 1934. Et Baoqi se trouve ici. Là donc, les choses sont allées nettement plus vite, alors que techniquement, le terrain en fait était plus difficile que le tronçon à l'est de Xi'an. Et encore une fois, pour des raisons exclusivement financières. En effet, le financement était assuré sur des emprunts étrangers par l'intermédiaire d'un consortium français. Et si une telle chose a été possible, c'est qu'à partir de 1935 environ, les autorités ferroviaires de la République de Chine ont réussi à partir de là, au terme de beaucoup d'efforts, à restaurer leur crédit international en renégociant et en apurant toutes les dettes anciennes qui s'accumulaient de façon hautement critiquée dans les milieux d'affaires étrangers. Désormais, de ce fait, la recherche de crédit, aussi bien auprès des institutions financières chinoises qu'à l'étranger, soulève beaucoup moins de difficultés. Et j'ajoute que deux branches d'intérêt stratégique ont été construites, à partir du Longhai, ont été construites pendant la guerre. D'abord une ligne de 100 km, une ligne à voie étroite depuis Baoqi en 1937, et ensuite une voie reliant Xianyang à Tongguan. Xianyang, qui est donc cette ville, qui est aujourd'hui l'endroit où se trouve l'aéroport de Xi'an, à Tongguan, qui s'appelle aujourd'hui ici, Tongchuan, mais ça s'appelait Tongguan, jusqu'aux années 50, je crois. Tongguan, qui se trouve donc plus au nord, était important parce que là se trouvaient des mines de charbon qui étaient devenues indispensables pour alimenter les locomotives du long rail et les industries locales, à présent que les sources habituelles de combustible qui se trouvaient au Henan et au Shandong étaient aux mains de l'ennemi. Cette voie, donc, entre Xianyang et Tongguan, a été construite entre 1939 et 1942 en récupérant les rails de la section du long rail au Henan, qui était située entre Zhengzhou et Luoyang, laquelle avait été démontée pour gêner l'armée japonaise. Cette nouvelle voie, donc, traverse, comme vous pouvez le voir, la région du Weibei, puisqu'elle passe par là, atteint Fuping et Yaoxian, avant d'arriver à Tongguan. Et du coup, cette région du Weibei, donc, qui nous occupe depuis le début, s'est trouvée directement connectée au réseau ferré national, lequel se réduisait à ce moment, il est vrai, à la branche occidentale du Long Rail, donc à l'est de Luoyang. Là encore, à en croire sa biographie, cette branche longue de 130 km serait l'œuvre du gouverneur Shao Lizhe, mais c'est un total anachronisme. Enfin, pendant la même période, c'est-à-dire toujours 1939 à 1942, est menée à bien, dans des conditions techniques et économiques qui semblent avoir été extraordinairement difficiles, la prolongation du long rail à l'ouest de Baoti jusqu'à Tianshui, donc à cette ville qui se trouve déjà dans le Gansu, pour une longueur de 154 km. Tout cela toujours dans le but de faciliter les communications avec le grand intérieur, c'est-à-dire l'Asie centrale et l'URSS, pendant la guerre. Comme je le disais, cette activité de construction ferroviaire dans la province, qui dure jusqu'en 1945, et qui a réellement pris son essor à partir de 1934 ou 1935, est en grande partie de nature stratégique. Elle est inséparable des prodromes de la guerre contre le Japon, et ensuite de la guerre de résistance contre le Japon, car il s'agit de faire du Shaanxi, juste en arrière du front, une base stratégique et économique puissante. Le chemin de fer du long rail à l'intérieur du Shaanxi a d'ailleurs été équipé pour la guerre avec construction d'abris anti-aériens dans les gares, car pendant la guerre, la vallée de la Wei était à portée de l'aviation japonaise, des stocks spéciaux de matériel constitués pour soutenir une attaque terrestre, entraînement spécial du personnel en cas d'attaque, etc., etc. Mais les conséquences économiques de l'arrivée du chemin de fer à Xi'an, par opposition à son utilisation stratégique, les conséquences économiques, à partir donc de la fin 1934 et deux ans plus tard de son arrivée à Baoti, qui sont celles qui nous concernent plus ici, ont été considérables, et cela dès la courte période précédant la guerre, autrement dit, avant que la section conservée à l'ouest de Luoyang ne devienne la principale voie de communication entre le front et l'arrière. En effet, toute l'économie de la Wei s'en est trouvée désenclavée. Les échanges commerciaux avec les provinces centrales ont pu littéralement changer d'échelle et il est devenu concevable d'importer au Shaanxi des équipements lourds pour y créer de nouvelles industries. L'auteur qui a étudié de plus près le développement économique du Guangzhou entre 1930 et le début des années 1980, en fait, la partie sur la période dont je suis en train de parler est un peu seulement, c'est tout à fait le début de son ouvrage. Cet auteur, donc, qui est Édouard Vermeer, comme le peintre, dans un ouvrage publié en 1988, estime qu'on ne peut pas vraiment parler de développement économique au Shaanxi avant la connexion de Xi'an au réseau ferré. Celle-ci marque ce qu'il appelle la première vague de changements socio-économiques dans la région, suivie d'une autre vague qui découle des effets de l'économie de guerre après 1937, et enfin d'une troisième vague de changements correspondant au premier plan quinquennal sous le régime communiste. Ces effets étaient d'ailleurs cumulatifs, puisque, par exemple, pendant la guerre, le long rail a joué le rôle également de voie d'évacuation pour un nombre important d'industries des zones occupées ou menacées qui ont déménagé littéralement et sont venues se replier avec leurs équipements dans la vallée de la Wei. Et l'industrialisation du Guangzhou s'en est trouvée considérablement accélérée. Mais dès 1936, comme le montre Vermeer, plusieurs industries modernes sont venues s'installer à Xi'an et dans ses environs grâce toujours à l'apparition de la voie ferrée, notamment une usine de tissage appartenant à la grande entreprise Dahua, qui avait des usines dans plusieurs autres grandes villes de la Chine intérieure, ainsi que des meuneries industrielles, une distillerie appartenant à une compagnie allemande, et diverses petites industries financées par des capitaux locaux. Que la connexion ferroviaire ait donné le signal de départ du développement est certainement vrai en termes de croissance économique moderne. Mais je crois, et c'est ce que j'essaye de montrer ici, je crois que les prodromes de cette croissance se sont fait jour avant cette date, essentiellement à partir de 1931 ou 1932. En d'autres termes, ils apparaissent avec les premiers projets et les premiers efforts de modernisation, si limités soient-ils, au lendemain de la prise de pouvoir des nationalistes au Shaanxi. Et c'est donc ce qui m'a conduit à parler d'une amorce de cycle de développement pour cette première moitié, disons, des années 30. Parlant de signes visibles, par opposition, j'entends, aux transformations dans la gestion et les méthodes de l'agriculture, qui sont moins immédiatement visibles et dont je m'occuperai dans un instant, parlant de signes visibles, je viens d'évoquer donc la question des transports, du transport ferroviaire, et je voudrais en venir plus brièvement peut-être à celle du transport routier, où les premiers signes de transformation anticipent quelque peu l'arrivée du chemin de fer à Xi'an et sa prolongation vers la haute vallée de la Wei. J'ai fait allusion tout à l'heure au jugement définitif de Plouchek, basé sur ses observations, ou faudrait-il sur ses aventures, en mars 1934. Par temps sec, on peut à peu près circuler, par exemple prendre un des services de bus entre Tongguan et Xi'an, mais dès qu'il se met à pleuvoir, les routes sont transformées en un bain de boue et toute la circulation s'arrête. Et par là s'explique en partie, dit également Plouchek, l'isolement commercial et l'arriération économique de Xi'an. Certes, la condition des routes dans le Guangzhou avait quelque chose de médiéval, ou au minimum de prémoderne, qu'accentuait encore la géologie de la vallée de la Wei, c'est-à-dire le fait que c'est une plaine de Leus. Mais là aussi, les choses étaient en train de bouger. Le meilleur aperçu que nous ayons de la situation des routes au Shaanxi, au début de la période qui nous concerne, pour être précis, au début de 1931, c'est Todd qui nous le donne dans un article paru en février de cette année 31 dans la revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains, dont j'ai souvent parlé, un article paru sous le titre « Shaanxi's Highway Problem », donc le problème des grandes routes au Shaanxi. Et cet article commence par un commentaire sans appel sur la condition misérable de la province à ce moment, laquelle ne peut être, dit-il, qu'un fardeau pour la Chine, plus sans doute que toute autre province. Le Shaanxi, donc, il compare non pas à une belle au bois dormant, mais à un mendiant moribond. Sauf que, justement, cette région misérable, ravagée par la sécheresse, par les désordres politiques et par le banditisme, a un potentiel, qui pour le moment est un potentiel agricole, et qu'on peut donc la faire revivre. Et le problème le plus urgent, ce sont les transports, c'est-à-dire en l'occurrence les transports par route, puisqu'il n'y a toujours pas de chemin de fer, et que par ailleurs, les transports fluviaux, c'est ce qu'il précise également dans son article, se limitent à quelques jonques de faible capacité sur la Wei quand il y a de l'eau, rivière par laquelle on ne peut d'ailleurs pas s'approcher à moins de 75 km de Xi'an. Ces transports routiers, traditionnellement, ce sont premièrement les charrettes tirées par des mules qui servent surtout sur ce qu'on appelle la grande route ou les grandes routes, les principales routes. La grande route étant en l'occurrence l'ancienne route impériale qui va donc de Tongguan à Xi'an et au-delà qui va vers Lanzhou, c'est donc la route Xilan, dès qu'on dépasse Xi'an vers l'ouest. Et l'effet des charrettes, vous le voyez un peu sur cette image dont je ne sais pas où elle était prise, sinon que c'est au Shaanxi. C'est-à-dire également, effectivement, une chaussée totalement boueuse, profondément creusée de sillons. Et d'après certaines descriptions que je mentionnerai tout à l'heure, il arrivait qu'il n'y ait non pas une file de voitures comme ça, mais d'énormes embouteillages dont vous imaginez l'effet sur la rapidité des communications. Donc, premièrement, les charrettes tirées par des mules. Deuxièmement, les brouettes. Et troisièmement, les bêtes de somme, c'est-à-dire toujours des mules, qui sont en fait le principal moyen de transport dès qu'on quitte la route principale qui suit donc la Wei, la rivière Wei d'est en ouest. Et puis, très récemment, l'automobile a fait son apparition, ce qui nécessite un certain nombre d'aménagements aux routes existantes. On n'en est qu'au tout début, dit Todd dans cet article, donc de début 31, et l'article est précisément consacré à un état des lieux de ce point de vue, c'est-à-dire il fait le compte des routes qui sont accessibles à ce moment-là aux véhicules automobiles. Et c'est à coup sûr très limité. Il y a d'abord la route qui permet d'atteindre Xi'an depuis Tongguan, qui avait été, d'après Todd, quelque peu réaménagée en 1921 avec des fonds étrangers. C'était pendant la grande famine de 1920-21. Encore que ce qui s'est exactement passé à ce moment avec cette route n'est pas tout à fait clair. En tout cas, ça ne m'est pas tout à fait clair pour le moment. En effet, nous savons que en 1922, Feng Yuxiang, qui était alors gouverneur militaire du Shaanxi et qui avait de grands projets pour moderniser la province, avait invité le futur général Stilwell, qui était alors un capitaine et qui était attaché militaire à Pékin, à venir diriger les travaux pour rendre cette route carrossable. Et Stilwell venait de réaliser une route dans la province voisine du Shaanxi pour le compte de la Croix-Rouge américaine et il en avait tiré une certaine réputation. Mais finalement, il n'en était rien résulté parce que Feng Yuxiang avait dû très vite quitter la région à la tête de ses troupes pour aller participer à un de ces conflits entre cliques de seigneurs de la guerre qui rythme le début des années 20. Et Stilwell était pour sa part retourné à son ambassade à Pékin. Et ce qui est sûr, c'est que à ce moment, donc au début 1922, la route n'avait pas été aménagée pour les automobiles et qu'il fallait 4 jours de charrette pour parcourir la centaine de kilomètres entre Tongguan et Xi'an. Et autant entre le terminus du Long Rai, donc à l'est, au Henan, et Tongguan. Et le journal de Stilwell donne une description extrêmement pittoresque de ce trajet. Mais d'une manière ou d'une autre, on a dû faire quelque chose, que ce soit en 21 ou 22, ou probablement après 22, car, nous dit Todd, il y a des services de bus depuis cette époque, et lui-même en a pris un la première fois qu'il est venu au Shaanxi, c'est-à-dire au printemps 1924, quand il était venu pour visiter le site du Weibei avec Li Yizhe et signer un accord avec le gouverneur Liu Zhenhua. J'avais parlé de ça, je crois, la première année de cette série. Ce que dit Todd, c'est que depuis 3 ans, donc depuis 1928, les routes proches de Xi'an ont été aménagées et qu'à l'intérieur même de la ville, on a beaucoup amélioré les chaussées de telle sorte que la circulation automobile est possible dans la capitale de la province et autour d'elle. Et c'est donc plus ou moins la situation que décrit Plouchek en 1934. Et puis Todd explique aussi que pendant cette même période, c'est-à-dire après 1928, lorsque Feng Yuxiang et ses lieutenants occupaient toute la région, que pendant cette même période, donc, Feng Yuxiang avait fait construire une route large et carrossable entre Lingbao, qui était le terminus temporaire du Long Rai au Henan, et Tongguan, donc 75 km à peu près. Une route qui remplaçait d'une certaine façon le tronçon manquant de voie ferrée pour arriver jusqu'au Shaanxi. Et qui, en tout cas, a eu pour effet, explique Todd, d'attirer les véhicules automobiles dans cette province, y compris les autobus. Et c'est donc de là, apparemment, que date l'apparition de l'automobile au Shaanxi, 1928 ou 1929. Le contraste doit avoir été assez remarquable avec la situation qui prévalait sur le même trajet, donc toujours ce tronçon au Henan entre Lingbao et Tongguan, sur le même trajet quelques années plus tôt, tel qu'a pu l'avoir Stilwell en 1922, dans son trajet vers le Shaanxi, dont il a laissé dans son journal une description extrêmement haute en couleur. Comme la circulation est dense et dans les deux sens, explique-t-il, ce ne sont qu'embouteillages homériques de charrettes chargées d'énormes balles de coton, plus la femme et les enfants du propriétaire, criailleries, négociations interminables pour savoir qui va passer le premier, et ainsi de suite, et le tout avance avec une lenteur effrayante, mais sans impatience de la part des gens, qui semblent, en fait, d'après sa description, prendre beaucoup de plaisir à ces bagarres, finalement, en route. Il est facile, bon, enfin, ces descriptions valent ce qu'elles valent, il est facile d'imaginer que, lorsque le chemin de fer a fait son apparition sur les mêmes trajets au début des années 30, la circulation des personnes et des marchandises a pu être, du jour au lendemain, multiplié par plusieurs ordres de grandeur, aussi bien en rapidité qu'en quantité. Enfin, Todd évoque les travaux routiers récents que la CIFRC a entrepris au Shaanxi pendant la phase la plus aiguë de la famine de 1930. Et j'y avais fait allusion quand j'avais évoqué les mois précédant le démarrage du projet du canal Tinghui, lorsque John Baker était venu organiser les opérations pendant l'été de cette année 1930. Et enfin, Todd propose un tableau, sous forme de tableau, des tronçons actuellement accessibles aux automobiles, donc au début de l'année 1931. Qu'il s'agisse de routes spécialement aménagées pour cela, ou d'anciennes routes accessibles aux charrettes, mais qui ont été améliorées de telle façon que les automobiles peuvent s'y risquer pendant certaines périodes de l'année. Et il précise à chaque fois la longueur du trajet, la largeur de la chaussée et la qualité du profil. Et il indique aussi qu'en 1930, la CIFRC aurait construit dans la province plus de 150 km de routes nouvelles et aménagé environ 250 km de routes ou de pistes existantes. Les routes spécialement aménagées pour la circulation automobile dans cette région sont toujours des routes en terre. Elles ne sont jamais empierrées, d'ailleurs, il n'y a pas de pierre dans le Leuss. Et d'après Todd, à condition qu'elles soient bien conçues, avec des caniveaux adéquats, qu'elles soient convenablement tassées et surtout qu'elles soient bien entretenues, elles supportent assez bien les pluies et ne doivent être évitées en fait que pendant les grandes pluies de l'été. Le problème de l'entretien est évidemment fondamental. Et comme le confirment beaucoup d'auteurs, c'est un peu le maillon faible, car les administrations locales ou bien manquent de moyens ou bien s'en désintéressent. Et en outre, il est toujours difficile dans un premier temps de convaincre les riverains qu'entretenir les routes qu'entretenir et protéger les routes est dans leur intérêt. Plusieurs témoignages suggèrent en fait que les routes les mieux entretenues sont les routes militaires. Et concernant cette ardente obligation de conserver les routes en bon état, la grande question, discutée dans de nombreux articles de la même revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains, c'est la cohabitation des automobiles et des charrettes. En effet, les charrettes sont le plus souvent équipées de roues avec des jantes très étroites et du coup, elles détruisent les revêtements en y creusant des ornières extrêmement profondes. C'est exactement ce qu'on peut voir sur cette photographie. Si bien qu'une route sérieuse doit comporter une voie séparée, réservée aux charrettes, ou alors la route elle-même doit être interdite aux charrettes, équipées avec des jantes de moins de 3 pouces de largeur. Et apparemment, en 1931, c'était le cas, je veux dire, l'existence d'une voie séparée pour les charrettes, c'était le cas pour une bonne partie des routes du Guangzhou central, dont Todd fait la liste. En bref, si en 1931, le Shanxi n'en est pas encore à posséder un réseau de routes décentes pour la circulation automobile, et si le problème des entraves apportées à la circulation pendant la saison des pluies ne sera résolu que longtemps après la période qui nous concerne, c'est-à-dire en goudronnant les principales routes, la situation est visiblement moins dantesque que ce que décrit Plouchek dans ses souvenirs, des souvenirs dont il est clair qu'ils ont été très influencés par le mauvais temps. Mais elle est encore précaire, la situation, et si on arrive à peu près à circuler à l'intérieur du Guangzhou, les communications avec le sud et avec le nord de la province sont inexistantes et elles le resteront longtemps. Et il n'est que de voir, à cet égard, le récit de voyage d'Agnès Medley entre Yan'an et Sanyuan, c'est-à-dire la vallée de la Wei, en 1937. En revanche, et j'en ai déjà pas mal parlé, la fameuse route Silan, qui parcourt la vallée de la Wei à l'ouest de Xi'an et qui connecte le Shanxi avec Lanzhou, la capitale du Gansu, et au-delà avec le Xinjiang et l'Asie centrale, cette fameuse route va être réalisée tout de suite après. J'en ai raconté les péripéties ou une partie d'entre elles, mais le résultat est là. Lorsque le journaliste Peter Fleming et ses compagnons parcourent cette route sur toute sa longueur à l'hiver 1935, perchés sur des camions surchargés et ayant à subir au long de 8 jours de voyage qu'ils caractérisent comme pénibles et hasardeux divers incidents et divers accidents, il n'en remarque pas moins dans son article que, je cite, « la route elle-même était d'une qualité surprenante ». Et il note aussi que les Chinois ont remplacé les panneaux de signalisation dont les ingénieurs étrangers leur avaient donné les modèles par des panneaux portant un point d'exclamation pour signaler les passages difficiles ou dangereux, ou 2 points d'exclamation quand c'est vraiment dangereux. Cela étant, il est plus difficile de suivre en détail les progrès du réseau routier du Guangzhou pendant les années 1930 que ceux du réseau ferroviaire, qui est à la fois plus simple et mieux décrit dans les sources. Mais même ainsi, les signes extérieurs de développement dont j'ai parlé jusqu'ici, donc la ville de Xi'an, les voies ferrées, les routes, auxquelles il faut bien sûr ajouter les infrastructures d'irrigation, mais ça j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, tout cela est loin de tout résumer. Je crois qu'il faut aussi tenir compte d'éléments plus difficiles à mesurer avec précision, en tout cas dans l'état de nos connaissances, tels que le développement du système éducatif ou même le niveau d'expertise scientifique disponible localement. Et concernant ce dernier point, par exemple, j'ai été frappé par la qualité de la revue fondée par Li Yijie en 1932, que j'ai mentionné tout à l'heure, donc le Shanxi Shuili Yuekan, la revue mensuelle d'hydraulique du Shanxi, qui a continué, dont j'ai feuilleté la plus grande partie de la collection, et qui a continué de paraître jusqu'en 1942 au moins, et qui contient beaucoup d'articles techniques de haut niveau, ou d'articles portant sur l'économie agraire, en plus des articles également très techniques concernant l'irrigation et les travaux hydrauliques. Quant au développement des écoles et de l'enseignement supérieur, il faudrait une enquête détaillée pour en prendre la mesure exacte. On ne partait pas de zéro d'ailleurs, puisque l'université du Nord-Ouest avait été créée dès les années 20, que Li Yijie y avait fondé un collège d'ingénierie avec une section d'hydraulique qui devait devenir, après diverses péripéties, le département d'hydraulique de l'école de Wugong, dont je vais tout de suite parler, et qui a été une pépinière d'ingénieurs pour le Shanxi et même hors du Shanxi. Et enfin, que d'une manière plus générale, Xi'an semble avoir eu une population lycéenne et étudiante significative dès cette époque, des années 20, et parfois une population étudiante politiquement assez agitée. Mais il est probable que ces institutions ont beaucoup souffert du siège de Xi'an, de la guerre civile et de la grande crise provoquée par la sécheresse, et qu'elles ont par conséquent dû par la suite se reconstruire progressivement. Mais encore une fois, je ne suis absolument pas en état ou en mesure de faire un bilan, si peu précis qu'il soit, pour le début des années 30. Malgré tout, à un niveau plus élémentaire, outre le témoignage de Prouchek que j'ai mentionné tout à l'heure sur les écoles, témoignage certes très cursif, mais quand même intéressant, on prête au gouverneur Shao Lizhe et également à son épouse, Fu Xuewen, dont j'ai parlé la dernière fois, beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'éducation et de l'hygiène au Shanxi, dont certaines sont d'ailleurs confirmées par les sites internet d'écoles fondées par eux et qui existent toujours. Ainsi parle-t-on d'une école professionnelle pour les filles à Xi'an, où on enseigne la comptabilité et d'autres disciplines de ce genre, également d'une école de sages-femmes, etc., etc. Plus proche de nos préoccupations en matière de développement, cependant, est l'Institut agronomique du Nord-Ouest, c'est-à-dire le Sibei Nongxue Yuan, également appelé Institut agronomique de Wugong, du nom du district où il avait son siège, un peu à l'ouest de Xi'an, le long de la Wei. D'ailleurs, on mentionne deux autres écoles d'agronomie dans la vallée de la Wei pendant la même période, six un peu dans la même région, à Zhouzhe et à Xianyang. Et si on reprend la carte, donc vous voyez ici, on se repère toujours sur Xi'an, et Wugong se trouve ici, Xianyang donc ici, et Zhouzhe n'est pas sur cette carte, mais enfin c'est également dans ce même secteur. Il y a sur cette création de l'Institut de Wugong un témoignage assez intéressant d'un certain Ma Wenyan, dont le nom importe peu parce que c'est pas quelqu'un de connu par ailleurs, dans la série des Wenshizhiao de Xi'an, dont les détails me semblent caractéristiques de l'introduction d'un incontestable degré de modernité dans ce qui restait l'activité économique majeure de la région, c'est-à-dire l'agriculture. L'idée de créer dans le Guangzhou une école moderne d'agronomie remonterait à l'époque de l'armée de pacification nationale, autrement dit la Tingotun, dont j'ai beaucoup parlé, je crois, la première année, au début des années 1920, c'est-à-dire ce régime dissident d'inspiration sun-yat-séniste ou sun-yat-sénienne qui avait occupé la région du Weibei pendant près de 4 ans en tenant tête au seigneur de la guerre qui détenait le pouvoir à Xi'an et qui aurait tenté, avec des moyens, il est vrai, extrêmement limités, d'impulser dans la région qu'il contrôlait, donc le Weibei essentiellement, des politiques d'éducation et de développement. J'avais parlé de tout cela les années passées. C'est donc pendant les derniers mois d'existence de la Tingotun, à la fin de 1921, que Yu Yuzhen, son chef spirituel, alors replié à Wugong, et le général qui l'avait pris sous sa protection, qui n'était autre que Yang Hucheng, auraient formulé le projet d'y fonder un jour une école d'agronomie pour répondre, raconte l'histoire, à un vœu formulé par les paysans locaux, car ceux-ci se désespéraient d'arriver à sortir un jour l'agriculture du Guangzhou, de la crise profonde où elle était plongée, et donc de créer une véritable zone révolutionnaire. Le choix de Wugong n'était pas fortuit. C'est en effet là même, selon la légende ou selon la mythologie chinoise, que Hou Qi, c'est-à-dire qui est l'un des héros fondateurs de la civilisation chinoise aurait enseigné aux Chinois l'agriculture. Quoi qu'il en soit, le projet est impraticable à ce moment, puisqu'on est en pleine débâcle militaire, mais 10 ans après, Yu Yuzhen et Yang Hucheng, le premier devenu un grand dignitaire du Kuomintang, alors en visite à Xi'an, le second devenu gouverneur de la province, aurait décidé de redonner vie à ce vieux projet. Et ceci, c'est vraiment un témoignage d'un monsieur qui dit « j'étais là ». Mais les forces locales ne suffisent pas à monter une telle entreprise, si bien qu'en 1932, on décide de profiter d'un projet de déménagement dans l'intérieur de la Chine, de l'Université du Travail, la Hudongda Xue, qui se trouve à Shanghai, pour en récupérer l'Institut d'agronomie et le transférer au Shanxi. Et apparemment, Yu Yuzhen a pu arranger cette affaire grâce à ses nombreuses connexions dans les universités shanghaïennes, où il avait été lui-même un personnage important dans les premières années de la République. Je vous passe les détails des travaux préparatoires et des négociations, car il y avait d'autres candidates que Wugong pour accueillir ce nouvel institut. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il s'est agi d'acquérir un site pour le nouvel institut, et un institut d'agronomie a besoin de beaucoup de terrain pour ses champs expérimentaux, on s'est heurté à un problème dont j'ai déjà parlé, qui est le problème des expropriations, dont l'auteur note au passage qu'en effet, il bloque souvent les projets de développement et notamment les projets routiers. Heureusement, dit-il, le soutien puissant de Yang Hucheng, c'est-à-dire, je suppose, un acte d'autorité du gouverneur, permet de débloquer la situation et d'acquérir un terrain de 500 mou pour construire l'école, pas moins de 8000 mou, c'est-à-dire environ 450 hectares, ce qui est une surface énorme en Chine, de champs expérimentaux et 20000 mou de terrains forestiers dans les montagnes Qinling à proximité. La première pierre est posée en 1934, mais certains départements de l'Institut semblent avoir en fait commencé de fonctionner dès 1932. Et les travaux commencent, toujours d'après ce témoignage, en 1935. Et, détail intéressant, ils seront confiés à la même entreprise shanghaïenne que l'hôtel Siting, dont j'ai parlé, capitale de l'Ouest, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a la meilleure qualité d'architecture moderne et de construction. D'ailleurs, l'auteur affirme qu'à l'époque, c'était le plus beau bâtiment d'enseignement dans tout le Nord-Ouest. Et l'enseignement, finalement, qui est dispensé et financé est financé en partie par une subvention du gouvernement central. L'Institut de Wugong, qui est également appelé dans certaines sources ou à certaines époques, je n'ai pas réussi à exactement suivre la liste de ces appellations successives, aujourd'hui c'est Xibei Nonglin Dashue ou quelque chose comme ça. Donc également appelé École spécialisée d'agronomie et de sciences forestières du Nord-Ouest, donc Xibei Nonglin Chuankui Xuexia, a atteint son plein régime en 1936 avec 6 départements d'hydraulique, d'agriculture, un département d'études forestières, un département de culture potagère, un autre d'élevage et de sciences vétérinaires, et enfin un département d'économie agricole. Et l'Institut de Wugong acquiert assez vite une réputation nationale qu'il possède encore aujourd'hui. Cet institut d'agronomie de Wugong a sans aucun doute joué un rôle de premier plan dans le développement de l'agriculture du Guangzhou à cette époque. Mais les recherches qu'on y poursuivait et la formation scientifique et technique qui y était dispensée, ainsi d'ailleurs que dans d'autres institutions du même genre qui existaient également dans la province à ce moment-là, ne représentent, me semble-t-il, qu'un élément parmi d'autres dans la mutation de l'agriculture du Guangzhou qui s'est alors amorcée. Je dis bien amorcée car les effets en ont été souvent très longs à se matérialiser ou en tout cas à se généraliser. Et c'est donc à cela que je voudrais consacrer la fin de mes considérations. Certains des hommes qui ont été associés à la création de l'Institut de Wugong avaient, pourrait-on dire, une vision globale du développement qu'ils appelaient de leurs vœux dans une région qui était encore essentiellement sous-développée. C'est le cas avant tout de Li Yizhe, dont nous avons plusieurs textes assez remarquables dans lesquels il développe cette vision. Tout de suite après l'inauguration du canal Tinghui en 1932, par exemple, il publie un court texte intitulé « Mon opinion sur la gestion du canal Tinghui »,« Tinghui Chu, Guan Li, Guan Tian », dans lequel il insiste sur l'importance d'une gestion éclairée à présent que la première phase des travaux est terminée. De même, dit-il, que la plus belle des machines ne servira à rien si elle n'est pas entretenue. Et ça, c'est bien une réflexion d'ingénieur, et non pas de bureaucrate chinois. Les paysans sont les principaux acteurs, dit-il, et les fonctionnaires désignés par le gouvernement sont là pour les surveiller, pour les guider, fonctionnaires du bureau d'hydraulique en l'occurrence, mais pour les travaux importants, il est indispensable que l'administration prenne elle-même la direction des opérations. Mais Li Yijie dit aussi qu'il faut donner toute son importance à la recherche, Yentio, et il développe tout un programme qui vise, en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant, qui vise au-delà de la production agricole. Une fois le programme achevé, d'après la façon dont il voit les choses, il faudra prélever sur les revenus de l'irrigation pour constituer une base économique permettant d'encourager le développement non seulement agricole, mais également commercial et industriel. D'abord du Weibei, dont il veut faire ce qu'il appelle, et je trouve que c'est une expression assez remarquable, une zone économique complète ou intégrée, Zhengge de Jinxiqu, puis pour impulser le même développement dans toute la province par l'intermédiaire d'une banque d'épargne du Tinghui, dont le capital de départ serait constitué avec le produit de l'enregistrement de toutes les terres irrigables de la région, ce qui rapporterait environ $1 million, s'augmentant d'année après année d'un fonds pour l'irrigation perçu sous la forme d'une sorte d'épargne obligatoire versée par les utilisateurs de l'eau, leur rapportant un intérêt réduit, mais sans qu'ils aient le droit de retirer ce capital qu'ils ont donc dû contribuer. Et afin de ne pas compromettre la croissance de cette base économique, une fois qu'ils auront été approuvés par le gouvernement provincial, les règlements de gestion, donc les Guanli Zhangcheng, devront être maintenus définitivement et sans souffrir la moindre exception. Et Li Yijie ajoute qu'il est nécessaire d'inviter la CIFRC, les associations charitables qui ont aidé à la construction du canal, à rester sur place au moins sous la forme de, avec le titre de conseiller, et de leur demander d'envoyer en permanence des spécialistes pour guider le développement économique de la province. Et enfin, et c'est un sujet éminemment délicat, il affirme qu'il faudrait commencer par les districts du Weibei, donc nouvellement irrigués, pour appliquer une politique impitoyable de prohibition de la culture de l'opium. Je dis que c'est un sujet délicat parce que jusqu'en 1935 au moins, et probablement en bonne partie après, la culture du pavot est restée la source la plus sûre de rentrée fiscale pour le gouvernement de la province, qui était par ailleurs financièrement aux abois. Par exemple, cet article sur la banque provinciale du Shanxi, dont j'ai parlé il y a 15 jours, donc écrit par le directeur de cette banque à cette époque, dit que la seule source stable de revenus de la province, c'était l'impôt sur l'interdiction de l'opium. Enfin, j'avais expliqué ce mécanisme il y a 2 ans, par lequel les seigneurs de la guerre tirer d'énormes revenus de la culture de l'opium ou de l'interdiction de cultiver l'opium sous des formes qui obligeaient en fait les paysans à le cultiver. Et il se trouve donc que les mêmes méthodes ont été appliquées et conservées pendant au moins la première moitié de la décennie 1930 au Shanxi. Mais je n'ai pas le temps de développer sur ce point, sur lequel il existe pas mal de témoignages en fait, mais parfois on ne sait pas trop que penser. En tout cas, ce texte de Li Yijie est un exemple, et je pourrais en citer d'autres, du même auteur et pas seulement de lui. C'est une approche qu'on pourrait dire d'ingénieur, dans laquelle l'hydraulique n'est pas seulement un moyen d'accroître la productivité ou la sécurité de l'agriculture, à la manière traditionnelle, mais où elle sert aussi à impulser un développement économique multiforme. Et comme l'a noté en particulier David Pitts, dans son étude sur le programme de la Huai à l'époque républicaine, que j'ai déjà mentionné une ou deux fois, le grand ancêtre de ce programme de la Huai, et d'une certaine manière le grand ancêtre de la profession d'ingénieur en Chine, bien qu'il ne fût pas lui-même ingénieur, c'est-à-dire l'homme d'État Jiang Tian, avait déjà une vision intégrée où Jiang Tian, personnage très célèbre, une vision donc coup, l'industrialisation, et en l'occurrence l'industrie du coton, devait être basée sur une agriculture rendue prospère grâce aux aménagements hydrauliques, à quoi s'ajoutaient encore des institutions éducatives d'enseignement technique. En d'autres termes, c'était quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'envisageait pour la vallée de la Wei, aussi bien Li Jie que les technocrates de la Commission économique nationale et du comité de contrôle du coton dont j'ai parlé l'autre jour. Au reste, lorsque le grand programme d'aménagement de la Huai sera lancé à la fin des années 1920, le groupe d'ingénieurs de haut niveau appelé par le comité directeur, dont Li Jie est en fait le chef, je veux dire du groupe d'ingénieurs, ce groupe d'ingénieurs se basera de façon analogue sur le principe moderne de ce que Pitts appelle le « multipurpose river development », développement fluvial avec plusieurs objectifs, disons, qui inclut non seulement la protection contre les inondations, mais aussi la navigation, l'irrigation et l'hydroélectricité. Or, cette approche authentiquement développementale, comme on dirait aujourd'hui, sera confrontée à une approche plus traditionnellement hydraulique et orientée vers l'agriculture et vers la stabilité sociale, où le problème à régler est simplement le drainage du bassin de la Huai et la prévention des inondations. Et cette option plus conservatrice, c'est intéressant de le noter, était soutenue au départ par Chiang Kai-shek et sa faction, disons, les gens qui étaient proches de lui, mais Li Jie aurait réussi personnellement et à le convaincre du bien fondé de l'option plus ambitieuse du groupe des ingénieurs, laquelle d'ailleurs n'a pas pu être mise en œuvre car, bien qu'elle ait été décidée, tout a été arrêté par les grandes inondations de 1931 qui ont réorienté tout le programme. Quoi qu'il en soit, c'est le même genre de choix que Li Jie suggère peu de temps après au Shanxi. Ainsi encore dans un article de sa revue que je mentionnais tout à l'heure, où il affirme que l'ambition du bureau d'hydraulique du Shanxi, dont il est le chef, c'est de combiner la recherche et les projets sur les nouvelles activités, Xin Shiye, et la réforme et la modernisation des anciennes activités, Tio Shiye. Pour m'en tenir à ces anciennes activités, justement, il me semble qu'on peut évoquer trois types de facteurs dans leur réforme et dans leur modernisation. Le premier facteur, c'est tout simplement la construction des infrastructures. Au moment où Li Jie rédige ses articles, le nouveau système d'irrigation du Weibei est en voie d'achèvement et 7 autres de moindre ampleur, mais usant de techniques comparables, sont prévus sur tout le, pourtour de la vallée de la Wei. Le bureau d'irrigation en achèvera effectivement un, c'est le projet de Luo Huizhu, avant la mort de Li Jie. Un autre est déjà engagé à ce moment-là, c'est en 1938, et comme je l'avais mentionné, le programme de ces 8 canaux, en comptant le Tian Huizhu, sera finalement mené à bien au début de la République populaire. Même en l'absence de tout input scientifique, les effets du rétablissement de l'irrigation sont immédiats et ils sont spectaculaires. En conclusion d'un article consacré à l'opération du Weibei, paru en février 1933, donc seulement quelques mois après l'inauguration, Todd décrit en ces termes les effets bénéfiques de la nouvelle irrigation dans la partie supérieure du canal, celle dont s'occupait la CIFRC et qui fonctionne déjà à cette date. Je cite, ça a été une source de contentement que de constater, il circulait régulièrement dans la région, ça a été une source de contentement que de constater l'effet de ces travaux sur la réhabilitation des campagnes environnantes. Lorsque le chantier avait débuté, une très petite proportion des champs était en culture. Il y avait très peu de gens résidant dans les villages et on ne voyait, pour ainsi dire, pas d'animaux domestiques. Aujourd'hui, la superficie mise en culture est bien plus vaste, les villages sont pleins de gens qui ont l'air en bonne santé et on aperçoit beaucoup d'animaux. Alors que le banditisme sévissait lorsque les travaux ont été entrepris, c'est devenu un phénomène rare. Et là, il s'avance un peu puisque le kidnapping d'Eliassen est encore à venir. En tant qu'entreprise de secours contre travaux, le projet a incontestablement été une réussite. Fin de citation. Ou encore, dans un article paru dans la presse, la grande presse cette fois-ci, en 1935, je cite de nouveau, « Ce projet a permis d'irriguer 600 000 mous de terres à blé et à coton de bonne qualité dans la région du Weibei. La région a changé si rapidement en 1933, comparée à la pauvreté qui existait en 1928, 29, 30, 31 et 32, que les prix fonciers ont explosé et que les villages ont commencé d'être reconstruits. Des balles de coton et des épis de millet de la récolte de 1933 à Tingyang et à Sanyuan ont été apportés à Pékin et à Shanghai pour y être exposés. Les propriétaires de filatures ont commencé à être intéressés et ont fait leur premier voyage à Xi'an pour visiter ce nouveau jardin d'Éden. des paysans qui avaient pratiquement abandonné leurs terres au moment de la famine essayaient de la récupérer. Fin de citation. Certes, Todd a toujours été très bon pour faire sa publicité ou celle de ses travaux, mais le fait est que l'accroissement spectaculaire de la productivité du coton, par exemple, grâce à l'irrigation, est mentionné par toutes les sources. Un texte nous dit par exemple qu'avant l'irrigation, la productivité par mou en coton non égrené était de 20 à 30 kg, alors qu'après l'irrigation, elle peut monter jusqu'à 170 kg. Et il nous dit que le prix de la terre est passé de 1 ou 2 yuan par mou à une centaine de yuan. Un autre texte est un peu plus modeste, puisqu'il dit, et probablement plus près de la réalité, puisqu'il dit que le prix de la terre serait passé de 5 ou 6 yuan à 40, ce qui est déjà une augmentation énorme, et que la productivité en coton non égrené par mou serait passée de 30 à 80 kg. Mais même ainsi, c'est un accroissement considérable, et ceci s'ajoutant à l'expansion des surfaces cultivées en coton grâce à l'irrigation, a entraîné un boom de la production du coton dans la région très rapidement. Comme nous l'avions vu, la commission de contrôle du coton, dépendante de l'ANEC, de la Commission économique nationale, s'était beaucoup intéressée au Shanxi, où les développements comme ceux que je viens de décrire ne pouvaient qu'entrer dans son programme de développement d'une industrie cotonnière nationale basée sur une agriculture efficace. Cet intérêt s'est manifesté sous la forme d'aides techniques, comme les efforts de dissémination de meilleures variétés de semences et par un programme de coopératives rurales destiné à soutenir économiquement les producteurs en leur donnant accès à un crédit moins cher et en facilitant la commercialisation de leur production. Le Guanzhong a été en effet une des terres de mission du mouvement des coopératives rurales au début des années 30, conçu donc comme un moyen important d'extraire la paysannerie de la misère. Encore que dans ce cas précis, il ne soit pas toujours très facile de distinguer entre les entreprises de la Commission du Coton, les coopératives de la Commission du Coton, et celles de la CIFRC. Ce programme de la CIFRC, j'en ai parlé il y a quelques semaines, ce programme de coopérative rurale, et j'avais indiqué que son principal animateur était le secrétaire général de la Commission, c'est-à-dire Zhang Yuanshan. Au Shanxi, le mouvement semble avoir été initié en 1933. Cette année-là, en effet, la CIFRC et le Bureau de reconstruction de la province, le Tianxiting, organisent un stage d'un mois pendant lequel une soixantaine de personnes viennent suivre des conférences sur les coopératives. Et le résultat, ce serait, je tire ces indications d'une biographie de Zhang Yuanshan, le résultat, ce serait que dès 1934, il y aurait 31 coopératives de crédit dans la province, c'est-à-dire, en fait, au Guanzhong, presque toutes créées dès 1933 et dont la majorité semble avoir été gérée par la CIFRC, enfin sous sa supervision, qui leur a en outre fourni une aide de départ. Pour encourager le mouvement, le gouverneur Shao Lizi, qui avait été impressionné par les résultats obtenus par Zhang Yuanshan au Jiangxi, où il avait été appelé, je l'avais mentionné, je crois, pendant les grandes inondations de 1931, Shao Lizi donc invite Zhang Yuanshan à venir au Shanxi pour être directeur d'un bureau de la coopération au Shanxi, qui a commencé à fonctionner en août 1934. Zhang vient effectivement au Shanxi et il y fait venir des spécialistes de la CIFRC et des spécialistes des coopératives du Hebei, puisque c'est là que le mouvement des coopératives de la CIFRC avait été développé exclusivement en fait jusqu'en 1930 et que beaucoup d'expériences avaient été accumulées. Donc il fait venir tous ces gens pour propager et pour organiser le système avec des résultats qui, d'après lui, dans ses souvenirs, ont été très rapides. Et d'après un discours prononcé par Shao Lizi en 1937 à l'occasion du 15e anniversaire de la CIFRC, Shao Lizi avait également obtenu une aide financière de la Commission économique nationale. Et c'est là que je me demande s'il n'y a pas un mélange entre deux sources différentes, avant de faire venir Zhang Yuanshan, qui est resté 2 ans dans son poste de directeur du bureau de la coopération au Shanxi, sans faire en fait beaucoup de présence, dit-il lui-même dans ses souvenirs, car il était très occupé ailleurs. Donc il avait lancé l'affaire et ensuite il l'avait laissé à des collaborateurs. Et au bout de 2 ans, donc, il est obligé de quitter ce poste pour rejoindre le poste que le gouvernement lui a donné pour superviser l'ensemble du mouvement coopératif en Chine. Ça aussi, je crois que j'en avais dit un mot. Encore une fois, je ne suis pas trop sûr de l'articulation entre les coopératives de la CIFRC et celles de la Commission du Coton. Mais ce qui est clair, c'est que le soutien économique de la paysannerie faisait partie des efforts de développement poursuivis au Shaanxi dans ces années. Mais je voudrais revenir malgré tout pour terminer aux fondamentaux de la production elle-même dans le cadre de l'agriculture irriguée, car c'est là que nous décelons cette mutation ou cette amorce de mutation dont je parlais et qui n'est visible concrètement que dans certaines publications difficiles d'accès. Et là encore, on peut voir dans ces textes que Li Yijie a été l'un des inspirateurs de ces transformations. Il est possible, me semble-t-il, de distinguer en fait deux approches complémentaires ou qui se confondent en partie, avec d'une part la gestion de l'irrigation proprement dite et d'autre part les pratiques agricoles, c'est-à-dire l'agriculture proprement dite, indépendamment de la réglementation de l'irrigation. Mais en fait, ça se recouvre en bonne partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la façon dont on analyse la chose, on assiste à une sorte de négociation entre, d'une part, des principes et un vocabulaire nouveaux, qui sont en fait ceux de la science et de l'administration moderne, et d'autre part, les traditions auxquelles les paysans restent, par définition, en quelque sorte, attachés. La mutation dans la gestion de l'irrigation remonte en fait un peu avant. On la décèle dès 1928 dans des petits systèmes d'irrigation indépendants du grand système du Tianwei-Chu et situés un peu à l'est, au nord du Weibei. L'échelle est trop petite pour qu'on les voie ici. Au nord du Weibei, quand les autorités du moment ont cherché, donc nous sommes en 1928, à réformer la gestion de l'irrigation, c'est-à-dire concrètement la gestion du partage de l'eau, dans un contexte de sécheresse où ce partage donnait lieu à encore plus de disputes, voire de bagarres physiques, entre communautés rivales qu'à l'ordinaire. Et on la décèle, cette mutation, dans un gros dossier manuscrit rédigé à l'époque, daté de 1928, par un notable local, un dossier que nous avons découvert, mon collègue Christian Lamoureux et moi, au fond d'un placard, dans un local poussiéreux, dans une bourgade du Weibei, qui était l'ancien siège de local de l'irrigation, mais pour un système qui avait, à l'époque où nous l'avons visité, complètement disparu à cause d'un barrage. Donc c'était là, ça prenait la poussière. Et ce dossier consiste en une sorte de compilation de textes très divers, visant à défendre, sur pièce en quelque sorte, la tradition contre les nouveaux petits chefs de l'hydraulique qui se qualifient eux-mêmes de révolutionnaires. Nous sommes en 1928 et officiellement l'idéologie du Kuomintang règne au Shaanxi. Je ne m'étends pas sur ce document assez extraordinaire que nous avons publié depuis d'ailleurs, mais j'insiste sur cette prégnance de la tradition justifiée par des arrangements souvent très anciens, arrangements qui sont conservés soit dans des monographies locales, soit, et ça c'est le nec plus ultra, qui sont gravés sur stèles. J'y insiste parce que elle est encore invoquée, cette tradition, dans certaines enquêtes locales du milieu des années 1930, faites pour le compte du bureau provincial d'irrigation, qui était dirigé par Li Yijie. Et il s'agit de textes que nous avons d'ailleurs également retrouvés dans les archives locales. Le problème, en l'occurrence, est cette fois-ci de centraliser et de rationaliser la gestion de l'irrigation à travers des associations hydrauliques élues démocratiquement et fonctionnant sous le contrôle du bureau d'irrigation. Pourtant, sans pour autant toucher, mais il faut réaliser cette rationalisation, sans pour autant toucher aux droits coutumiers des communautés en matière de partage de l'eau, c'est-à-dire de partage dans le temps, en fait, de la distribution de l'eau suivant des cycles de distribution de vanne en vanne, dont on retrouve l'exemple un peu partout en Chine du Nord. Donc, d'un côté, il faut promouvoir ces associations hydrauliques démocratiques, entre guillemets, et rééligibles, etc. Et d'un autre côté, il faut ménager les communautés locales traditionnelles, qui, elles, ne changent pas, évidemment, et trouver des compromis entre les deux. Et ces compromis ne seront, en fait, réellement remis en question qu'au moment de la collectivisation agraire, dans les années 1950. Et c'est un peu la même chose en ce qui concerne les nouvelles réglementations mises en place et en œuvre sur le site du canal Tinghui, pour y revenir une dernière fois. En même temps que le texte programmatique dont j'ai parlé tout à l'heure, Li Yijie a publié des propositions pour les procédures de gestion du canal Tinghui. Propositions pour les procédures de gestion du canal Tinghui qui anticipent en fait les règlements mis en application pendant les années suivantes par le bureau d'hydraulique du Weibei, dont il était le directeur. Et ce qui est frappant dans ces règlements, c'est que tout en s'inspirant fortement de l'organisation traditionnelle de l'entretien des canaux et de la distribution de l'eau, qui dans les faits remontait à de nombreux siècles, ces nouvelles procédures introduisaient des nouveaux concepts qu'on peut bien qualifier de modernes et qui ont été progressivement intégrés par la culture hydraulique, si je puis dire, de la population locale. Ainsi, de nouvelles méthodes scientifiques étaient imposées pour mesurer le terrain, y compris les unités de mesure, qui ne devaient être des unités métriques et non plus les unités locales, pour mesurer le terrain, pour mesurer les quantités d'eau ou encore pour mesurer les temps d'irrigation. Par ailleurs, les nouveaux règlements s'efforçaient de rationaliser la distribution et l'utilisation de l'eau en tenant compte des différents types de cultures et des différents moments du cycle agricole. Et enfin, ils imposaient des règles strictes pour le paiement des droits sur l'eau et pour le financement de l'entretien, tout cela donc sous la supervision du bureau d'hydraulique. Et je voudrais vous donner un simple exemple de cette nouvelle approche scientifique, entre guillemets, mais même sans guillemets, de l'irrigation destinée à en optimiser les effets et à éviter les gaspillages et les disputes. Une approche dont on peut supposer qu'elle était constamment affinée et qui était inséparable, et ça c'est important, des travaux effectués dans ces nouveaux instituts agronomiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit, ce que je veux vous montrer, donc, il s'agit d'un tableau extrait d'un manuel à l'usage des paysans, résumant un tableau qui résume à la fois les aspects techniques, le manuel, pardon, résume à la fois les aspects techniques de l'irrigation, c'est-à-dire la disposition et la construction des canaux, les quantités d'eau, les débits, tout cela exprimé donc en mesure moderne, bien sûr, les taux d'alluvion, etc., etc., et reproduisant par ailleurs les règlements, et donc présentant à la fin, sous forme de tableau, les procédures d'arrosage en fonction des cultures irriguées et des périodes de l'année. Voici donc la couverture de ce petit fascicule, de ce manuel que je n'ai pas peu fier de trouver à la bibliothèque de Pékin, dont on peut voir par l'inscription qui est à droite qu'il a été donc envoyé par la poste depuis le Shaanxi à la bibliothèque, ce qui était alors la bibliothèque de Pékin, en mai 1934. Donc voici la couverture et voici le tableau. Et voici une tentative de traduction du tableau, mais là je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a toute une terminologie agraire, et je pense une terminologie locale, qui ne se trouve évidemment dans aucun dictionnaire. Mais ce tableau est intéressant parce que, donc, qui s'intitule Tien Hui Xu Tien Di Xu Shui Liang, donc le Ti Guan Guai Shu. Donc tableau des besoins en eau des champs irrigués par le Tianhuizhu et des périodes d'irrigation. Et en fait, il y a beaucoup plus dans ce tableau que je trouve assez remarquable, d'abord par sa forme même et ensuite par la quantité d'informations qu'il réussit à faire tenir sur une page. Et aussi parce que, et ça c'est un fait qui m'a beaucoup frappé quand je suis tombé là-dessus, parce que c'est la première fois depuis l'époque des Song, à ma connaissance, que de telles règles sont édictées, c'est-à-dire qu'on tient compte pour les règles d'irrigation des cultures elles-mêmes et du cycle agricole. Alors qu'il existe, difficile à comprendre souvent d'ailleurs, des règles qui ont été transmises dans les textes historiques et qui datent de toute évidence du canal à l'époque des Song, donc au XIe siècle. Alors que dans tous les règlements postérieurs, que j'ai étudiés de très près dans un travail maintenant un peu ancien, on indiquait les horaires d'irrigation autorisés pour chaque vanne, mais ensuite les utilisateurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient de l'eau à laquelle ils avaient droit. Alors que ici, donc, vous avez d'une part je vous le montre avec la traduction. Donc, d'une part, qui est de droite à gauche, de gauche à droite, au lieu d'être de droite à gauche, les types de cultures. D'autre part, les types de terrains, de terres qui peuvent être des terres réservées à telle culture ou non. Dans la troisième ligne, vous avez les périodes d'irrigation. Et dans la quatrième ligne, là, je n'ai pas j'ai rien mis parce que c'est intraduisible, mais vous avez tous ces termes qui désignent les périodes de l'année, les 24 périodes de l'année solaire agricole, qui sont des termes traditionnels, arrivée de l'hiver, instauration de l'été, petite siaoman, hein, petit plein, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, enfin, il y a toute une terminologie qui était la terminologie des paysans. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ce tableau combine donc des mesures métriques avec des mesures traditionnelles. Il combine le calendrier des 12 mois de l'année solaire, qui est le calendrier officiel de la République de Chine, avec une terminologie des temps de l'année, qui est la terminologie agraire traditionnelle. Et dans la dernière ligne, que j'ai pas inclus dans ma traduction, il justifie en fait le fait que l'irrigation est réservée à telle période, pendant telle période, donc indiquée ici, à tel type de terre et tel type de récolte, avec une profondeur souhaitable de tant de pouces, enfin avec un certain nombre d'indications sur les méthodes, les façons agricoles en quelque sorte. Donc à un endroit il dit il faut arracher à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de choses d'ailleurs, mais à un certain moment c'est les semailles, à d'autres moments il faut irriguer et tout de suite après sarcler, des renseignements comme ça. Et donc, Et donc, cette dernière ligne donne la justification, hein, puisque chaque entrée commence par « in ». C'est parce que, et qui, encore une fois, sont une combinaison de connaissances agronomiques modernes et de traditions. Donc, je termine là-dessus. Et dans ces quatre années d'exposé, comme vous l'aurez constaté, en tout cas ceux d'entre vous qui auront tout suivi, je suis parti du système d'irrigation du Weibei pour y revenir en fin de parcours et dans son application, comme nous le voyons ici, la plus quotidienne. J'en ai longuement analysé de ce système l'histoire de sa modernisation depuis les lendemains de la révolution de 1911 jusqu'à la veille de la guerre sino-japonaise. Donc 25 ans à peine et même moins si l'on considère qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant les 10 premières années du point de vue de l'histoire du Weibei, de l'histoire du dispositif hydraulique du Weibei. Cet aménagement, c'est une histoire d'ingénieur, en fait, de rêve d'ingénieur au départ, celui de Li Jie selon la légende, mais il n'a pas été le seul à y penser, à l'arrivée de la difficile mise en œuvre de cette vision, cette fois-ci sur le terrain. En cours de route, j'ai parlé de toutes sortes de choses, entre autres j'ai parlé des seigneurs de la guerre qui ont tellement retardé le projet, et également des philanthropes qui l'ont, en fin de compte, rendu possible. Et tout ceci m'a conduit à produire, je crois, de façon fragmentaire et incomplète certainement, et aussi avec beaucoup d'excursus, une sorte de fresque de l'histoire de la région du Guangzhou pendant la période républicaine. Une histoire où il y a eu beaucoup de bruit et de fureur, ça c'était surtout les deux premières années d'exposé qui parlaient de ça, beaucoup de misère aussi, c'était plutôt la troisième année quand j'ai parlé de la grande famine des années 28-30, mais qui se termine ici sur une note relativement optimiste, puisque nous avons une période de démarrage, de modernisation. Et au moins, ce qui était un facteur évidemment éminemment positif, le Shanxi aura échappé aux horreurs de l'invasion japonaise et aura pu poursuivre bon an mal an sa trajectoire de développement. Je ne sais pas si la cohérence ou du moins la nécessité de toutes ces choses dont j'ai parlé depuis 4 ans vous aura frappé. Pour moi, elle existe, mais elle n'est peut-être pas évidente. Mais dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté toute cette longue série avec autant de patience. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.